France Inter.
Le journal Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Vous n'êtes pas en position de force, dit Donald Trump à Volodymyr Zelensky. Échange ultra tendu à la Maison Blanche entre les présidents américains et ukrainiens. On va revenir dans un instant sur ces quelques minutes qui ont fait l'effet d'une bombe à Washington, mais aussi en Europe et jusqu'à Kiev. Et vous en parlerez aussi ce matin, Ali, avec vos invités.
Oui, dès 7h50, nous serons en direct avec l'Ukraine et Kiev et l'avocate et militante Oleksandra Matvichuk, qui est prix Nobel de la paix. À 8h20, l'invité du grand entretien de France Inter sera l'eurodéputée Valérie Ayé, qui est la présidente du groupe Renew au Parlement européen.
La France sera-t-elle bientôt reléguée en deuxième division sur le plan économique? L'agence S&P menace en tout cas de dégrader la note de la dette. Et puis Emilia Pérez, primée au César, la comédie musicale de Jacques Audiard a remporté 7 récompenses hier soir, loin devant Le Comte de Monte Cristo et L'Amour Ouf.
France Inter.
Le Wall Street Journal parle d'une explosion du bureau ovale. Une réunion explosive, résume aussi le New York Times. Déflagration diplomatique après une rencontre très tendue entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Le terrain était clairement miné pour le président ukrainien qui devait initialement signer un accord pour conserver le soutien américain en échange d'un accès aux ressources minières de son pays. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour à tous.
Volodymyr Zelensky est finalement reparti plus tôt que prévu après avoir été littéralement humilié.
Oui, lâché et pris en tenaille devant les caméras par le président et le vice-président américain ensemble. Zelensky explique qu'il ne fera pas de compromis avec Poutine, qu'il appelle le tueur. Trump hausse le ton et se met en colère. Vous n'êtes pas en position de force. Vous n'avez pas les cartes, là. Sans nous, vous n'avez pas les cartes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est très irrespectueux envers notre pays. Zelensky essaye de répondre, mais c'est au tour du vice-président, J.D. Vance, de l'attaquer. Avez-vous seulement dit merci? Offrez quelques mots d'appréciation aux États-Unis et au président qui essaye de sauver votre pays. Trump finit par mettre un terme à la réunion, concluer un accord où nous vous laissons tomber. Zelensky quitte la Maison Blanche quelques instants plus tard, sans avoir signé l'accord sur les minerais ukrainiens.
Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite?
Eh bien, Trump a repris l'image du manque d'atouts de son homologue. Pour lui, Zelensky devra faire la paix, mais il n'a pas beaucoup de cartes en main. Et le président américain a précisé que lui voulait un cessez-le-feu immédiat. Le président ukrainien avait, lui, choisi la chaîne conservatrice Fox News pour s'exprimer. Il considère qu'il ne doit pas d'excuses à Trump après leur affrontement verbal, que des partenaires doivent pouvoir se parler franchement et que leur relation pourra bien sûr être réparée. Il a néanmoins reconnu deux choses, qu'il aimerait bien que le président américain soit davantage du côté de Kiev et moins proche de Poutine et qu'il serait difficile de repousser la Russie et de gagner la guerre sans le soutien américain.
Sébastien Paour, correspondant de France Inter à Washington. Un peu plus tard, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a demandé à Volodymyr Zelensky de s'excuser. La scène a en tout cas rapidement fait réagir Moscou. La porte-parole de la diplomatie russe estime que Donald Trump et J.D. Vance ont fait preuve de retenue. Tandis que du côté ukrainien, Stanislas Poyer, on ne cache pas sa sidération.
Partout en Ukraine et en Europe, les réactions outrées se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Un fiasco pour l'Ukraine qui comptait sur cette rencontre pour relancer le partenariat stratégique avec leur allié américain. Oleksiy Goncharenko, député ukrainien.
C'est une catastrophe. Je ne trouve pas d'autres mots après ce qui vient de se passer à la Maison Blanche, juste sous les yeux du monde entier, où le président Zelensky s'est disputé avec le président Trump. L'Ukraine peut-elle survivre aujourd'hui en pleine guerre contre la Russie, un État nucléaire, le plus grand pays du monde, sans le soutien de ses alliés?
Car pendant ce temps, la guerre continue. Sur le front Est, les combats font rage et plus que jamais, l'Ukraine a besoin du soutien américain pour tenir face à la pression russe.
L'Ukraine peut compter sur l'Allemagne et sur l'Europe, assure le chancelier sortant Olaf Scholz. Emmanuel Macron rappelle que l'agresseur est la Russie, le peuple agressé l'Ukraine. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30. Le Premier ministre britannique Keir Starmer lui promet un soutien indéfectible à Kiev, alors que Londres doit accueillir demain un sommet justement consacré à la situation avec une quinzaine de dirigeants européens. Dans le reste de l'actualité, l'alerte rouge qui doit être levée à La Réunion. L'île va faire le bilan des dégâts causés par le passage du cyclone Gaza. Garance. Trois personnes ont été tuées selon un dernier bilan. Des renforts vont être envoyés sur place dans les prochains jours et dès ce matin, des sapeurs-pompiers de la sécurité civile et 5 tonnes de matériel vont arriver depuis Mayotte. Les aveux de Joël Le Squarnec en plein procès, l'ancien chirurgien actuellement jugé à Vannes pour viol et agression sexuelle sur 299 patients essentiellement mineurs, a reconnu des abus sexuels sur sa petite fille. Il a avoué les faits alors que le père de l'enfant, le fils aîné de Joël Le Squarnec, témoignait devant la cour criminelle du Morbihan. Les faits ne sont pas prescrits, la victime est âgée de 12 ans. La note de la dette française reste pour l'instant A-, mais elle pourrait se dégrader. S&P l'a sortie en tout cas d'une perspective négative. L'agence de notation pointe des finances publiques sous pression et un soutien politique aux réformes limité. Bref, les taux se resserrent nettement, comme l'explique l'économiste Norbert Gaillard, consultant indépendant et expert pour Euromonnaie Country Risk.
C'est le dernier coup de semonce avant, je dirais, un vrai coup dur pour la France. Il y a une réelle inquiétude de la part de l'agence, tout simplement parce que nous avons un déficit budgétaire très élevé et le rythme de réduction est modeste. Et en plus de cela, en fait, au-delà de 2025, il y a des incertitudes sur la capacité à continuer à réduire le déficit budgétaire. Donc, bon, on évite la dégradation, c'est le plus important. Là, ça serait véritablement une alerte, ça serait un coup dur parce qu'on passerait en quelque sorte un peu en deuxième division au niveau européen et même au niveau international. On verrait un certain nombre, je pense, d'investisseurs institutionnels se détourner des bons du trésor français parce qu'ils considéreraient que ce n'est plus un investissement quasi sans risque. Ça veut dire que non seulement on aurait des taux d'intérêt plus élevés, mais en plus on aurait des investisseurs qui seraient sans doute plus versatiles que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant.
Et le ministère de l'économie dit prendre note de la décision de S&P, décision qui rappelle, selon Bercy, l'ampleur du défi de redressement des finances publiques.
Et puis Clotilde, c'est le grand gagnant de la soirée des Césars.
Cette récompense pour Jacques Audiard, meilleur réalisateur, meilleur film pour Emilia Pérez, qui a donc surmonté les récentes polémiques juste avant les Oscars. Déception en revanche pour les deux longs métrages en tête des nominations, Le Comte de Monte Cristo, qui ne repart qu'avec 2 Césars techniques, et L'Amour Ouf, primé seulement dans la catégorie du meilleur second rôle avec Alain Chabat. Voilà donc pour cette 50e cérémonie des Césars, qui s'est déroulée sans grosse polémique hier soir à l'Olympia, contrairement à certaines éditions précédentes, avec tout de même quelques allusions à la situation politique et géopolitique actuelle. Résumé de la soirée avec Alexis Desmeyer.
Je déclare ouverte la 50e cérémonie des Césars et je la dédie à l'Ukraine.
Les mots de la présidente Catherine Deneuve, un badge aux couleurs de l'Ukraine sur sa veste. Chargé de réchauffer l'ambiance, le maître de cérémonie Jean-Pascal Zadi a lui mis les pieds dans le plat.
L'équipe d'Emilia Pérez avec 12 nominations. Meilleure réalisation, meilleure actrice, meilleur tweet. Jacques, on n'a plus que ça, faut rigoler!
Et Jacques Audiard s'est en effet rapidement déridé, devenant d'ailleurs hier soir l'artiste le plus récompensé de l'histoire des Césars. Belle soirée aussi pour l'histoire de Souleymane, 4 Césars, et pour la chronique rurale 20 dieux, meilleur premier film, et révélation pour Maïwenn Barthélémy.
Je pensais pas que depuis ma campagne, il y a un an et demi, je serais là ce soir et que j'aurais cette récompense. Tout ceci, je le dois à Louise Courvoisier. Elle m'a permis de jouer un rôle qui reflète mon quotidien, le travail d'agricultrice que je suis fière de représenter ici ce soir.
Le Monde Paysan, filmé aussi par Gilles Perret, César du meilleur documentaire pour La Ferme des Bertrands.
Ce César m'incite à continuer dans la voie que j'essaie de tracer, c'est essayer de rendre visibles les invisibles. Dans un pays où on tend plus facilement le micro à des milliardaires qui se plaignent plutôt qu'aux 10 millions de pauvres.
Même tonalité chez Costa Gavras, qui a prononcé un discours très politique en venant chercher son César d'honneur.
Et la prochaine étape, ce sera donc la cérémonie des Oscars à Los Angeles dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis un mot de football avec Monaco qui renoue avec la victoire 3-0 pour Le Rocher hier face à Reims. Suite de la 24e journée de Ligue 1 cet après-midi avec Saint-Etienne contre Nice, Lens face au Havre et le Paris Saint-Germain qui reçoit Lille ce soir.
C'était le journal de Clotilde Dumais. Hasard objectif, vous parliez des Césars. Laurent Delmas est rentré pile à ce moment-là dans le studio. Tout de suite le Zoom.